Acte 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla, il fabriquait des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux juifs que Jésus était le Christ. Les juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Pendant que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelques injustices ou de quelques méchantes actions, je vous écouterai comme de raison aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms, sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal, sans que Gallion s'en mette en peine. Et là, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Voilà, nous sommes en train de regarder le livre des Actes. Les chrétiens aiment bien ce livre parce que c'est rempli d'action, l'action est dynamique, la croissance est radicale. Et c'est vrai, cette croissance du christianisme est un fait marquant ici. Tout historien, tout philosophe se doit de pouvoir expliquer ce phénomène, comment ce petit secte des Nazaréens, comme on les appelait, ce petit secte des Nazaréens est devenu l'influence majeure du monde et l'Occident pendant plus de 20 siècles maintenant. Si on n'accepte pas la version de Luc, si on n'accepte pas la version des évangiles, sur la manière que la foi chrétienne est née, a vraiment connu une explosion, il faut pouvoir offrir une meilleure explication de la chose qui n'est pas si facile. Donc on aime bien ce livre parce que voilà, la croissance est radicale, l'évangile avance. Mais parfois, disons-le franchement, le livre des Actes nous décourage. Quand on se compare, quand on compare la situation à l'époque et puis le nôtre en France, comme disait bien notre sœur Nancy, on voit l'apôtre Paul, lui, c'est une machine d'évangélisation et d'implantation d'église. On dirait qu'il a les mains en or. Lui, il fait une tournée missionnaire et dans sa tournée missionnaire, il débarque dans une ville, il annonce l'évangile à des juifs, à des non-juifs, des gens se convertissent, il implante une église et puis il passe à la ville suivante, il fait la même chose et puis tout le livre des Actes, on a l'impression quand on lit ça, une ville après l'autre. Et là, on dit ça c'est le rêve, ça c'est le travail missionnaire. Cette semaine, j'ai dû remplir une évaluation de mon travail, un questionnaire, un bilan annuel. Je pense que vous, là où vous travaillez, de temps en temps, il y a des évaluations, des bilans à remplir. Donc moi, c'est sage pour les pasteurs, les missionnaires de le faire aussi. Donc je remplis, puis il y a des questions pour aider à orienter, cerner le travail accompli. Donc on arrive à des questions comme la suivante. Bien, combien d'églises, toi, personnellement, tu as implanté au courant de l'année passée? Alors, c'était pas difficile à réfléchir, j'avais pas besoin des deux mains pour les compter, même pas une main pour les compter. Et là, on aimerait bien être l'apôtre Paul, parce que lui, quand il remplit ses évaluations, il peut en parler des choses. Mais peut-être c'est un avis précoce qu'on a sur l'apôtre Paul, parce que je pense que dans ces versets montrent un autre aspect. Peut-être cela n'apparaît-il pas immédiatement, mais j'aimerais vous montrer ce matin que Paul à Corinthe, la mission à Corinthe, eh bien Paul ici, il est au bout du rouleau, comme on dit. Tout laisse à croire que Paul traverse un moment de grand découragement et il a l'impression que ça ne marche pas. Deux choses qui nous aident à comprendre ça, c'est d'abord le verset 9. Dieu lui donne une vision, ce qui est déjà assez fort, et Dieu dit « Ne crains point, mais parle, parle, ne crains point, mais parle. » Et quand on regarde dans la Bible, Dieu n'a jamais dit « Ne crains point » à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Dieu a toujours dit « Ne crains point » à quelqu'un qui manifestait quelques signes de crainte. Si Paul, s'il était tout feu, tout flamme, motivé pour évangéliser, pour faire les plein air, pour parler, Dieu ne l'aurait pas dit « Paul, ne crains point, mais parle, ne te tais point, parle. » Si Paul reçoit une telle vision, c'est qu'il en a besoin, il est craintif et il n'a plus envie de parler. Et puis l'autre chose qui permet de constater cet état, cette difficulté à Corinthe pour Paul, c'est que lui-même, il dit aux Corinthiens, et ça c'est très fort, hein, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 3, il dit « Quand je suis arrivé auprès de vous, 1 Corinthiens 2, 3, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Donc Paul arrive à Corinthe dans un état de crainte, de faiblesse et de tremblement. C'est peut-être un côté de l'apôtre Paul que nous ne connaissons pas bien, mais l'arrivée et le travail à Corinthe étaient particulièrement difficiles pour lui. Et c'est ce que j'aimerais voir ce matin, parce que ça correspond pas mal à notre situation. En France, j'aimerais faire trois choses avec vous ce matin. J'aimerais faire trois choses. La première chose, c'est quelque chose de très facile. La deuxième chose, c'est un peu moins facile. Et la troisième, c'est plus difficile et pourtant simple. La première chose qui est facile, c'est de regarder tous les problèmes. Ça, c'est assez facile. La deuxième chose qui est moins facile, c'est de regarder les encouragements, les bénédictions. Et puis la troisième chose qui est peut-être encore plus difficile et pourtant simple, c'est de regarder complètement ailleurs, comme Paul a pu faire. Donc on va d'abord regarder tous les problèmes, ensuite regarder les bonnes choses, les encouragements, et enfin regarder complètement ailleurs. Donc regardons ici les découragements. Quand on veut, c'est assez facile de voir tout ce qui ne va pas. Et c'est le cas à Corinthe. On peut regarder tout ce qui ne va pas à Corinthe. Tout d'abord, j'ai fait une petite liste de tous les découragements que Paul a dû connaître ici en arrivant à Corinthe. Tout d'abord, il arrive à Corinthe tout seul. Et avant, il était avec des compagnons, il avec Silas et Timothée, tout ça. Et maintenant, il est seul. Il a dû les laisser. Il les a renvoyés à Thessalonique, notamment pour y vérifier l'état de cette jeune église à Thessalonique. Donc, il se trouve tout seul après une expérience, on va dire, mitigée à Athènes. Donc, il arrive à Corinthe et dans la ville précédente, ça n'a pas trop bien marché. On s'est moqué de lui et il est seul sans ses amis. Donc, c'est un découragement, une solitude. En plus de cela, il n'a pas ou il n'a plus, il semble-t-il, de soutien financier. Ce n'est pas parce que le dollar a baissé, parce que le dollar n'existait pas encore, ou qu'il y avait forcément une crise économique, mais il doit reprendre un travail séculier pour ne pas être à charge de l'église à Corinthe. Parfois, il était soutenu, il n'avait pas besoin de travailler. Et ici, on le trouve avec ce métier fabricant des dents, et il va dire aux Corinthiens, voilà, j'ai travaillé pour ne pas être à charge de vous. Donc, déjà, la solitude et le manque de soutien, on pourrait dire que ce sont des réalités très présentes et très pesantes aussi pour l'Église en France. Et on pourrait rapidement voir toutes sortes de découragements qui viennent de la solitude, le manque de soutien. En plus de ça, pour continuer dans tout ce qui ne va pas, c'est tout simplement la ville de Corinthe. La ville de Corinthe, si vous êtes évangéliste, ce n'est pas votre premier choix en fait. La ville de Corinthe était une destination particulièrement difficile et peu enviable pour l'évangélisation. Nous-mêmes, je pense qu'on peut imaginer certaines villes ou certains quartiers dans certaines villes en France où, si on devait y aller, ce serait effectivement dans un état de crainte, de tremblement, de faiblesse. Autant à Athènes, on peut comprendre que Paul, avec son côté un peu philosophique, intellectuel, on peut comprendre qu'il se retrouvait un peu. Autant à Corinthe, on ne voit pas très bien là. Corinthe, c'était une ville débauchée. L'immoralité battait son plein. Et Paul, dans son attachement à Dieu, la sainteté, c'est là où il doit évangéliser. À Corinthe, il y avait notamment le temple d'Épaphrodite en haut. Épaphrodite, c'était la déesse de l'amour. Et donc, tous les soirs, 1000 prostituées descendaient en ville. Et le culte à Corinthe, c'était ça. C'était les prostituées. Donc, et puis, il suffit de lire la lettre aux Corinthiens plus tard pour voir qu'il y avait beaucoup d'immaturité dans cette église. Et cette immaturité venait certainement de la culture ambiante autour d'eux, toutes ces influences néfastes païennes qui pouvaient très bien étouffer ou décourager la foi. Et puis, pour continuer dans tout ce qui ne va pas, là, l'opposition recommence. Verset 6, les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures. En fait, c'est là où il faut se rappeler que depuis plusieurs dimanches, on suit Paul dans ce deuxième voyage missionnaire. Et voilà, maintenant, ça commence à peser l'opposition parce qu'il était à Philippe, et ensuite à Thessalonique, et puis ensuite à Bérée, et puis ensuite à Athènes. Et plus ou moins chaque fois, il a dû partir parce que les gens faisaient de l'opposition, la persécution. Et partout, il est traité d'un bandit, d'un hors-la-loi, un rebelle. Ses adversaires sont capables de le traquer de ville en ville. Et ce qui est fort, c'est qu'il était venu en Macédoine, c'est-à-dire cette région qu'on appelle la Grèce, il était venu en Macédoine pour évangéliser suite à cet appel d'un Macédonien qui dit « Viens par ici, secours-nous ». Et il arrive en Macédoine, mais voici ce qu'il dit en 2 Corinthiens 7. Il dit « Depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans ». Donc, on l'invite à venir en Macédoine, mais les Macédoniens, les Juifs en Macédoine, sont pas très accueillants. Et cette opposition le poursuit partout. Et je pense qu'il commence en avoir marre. Il a commencé au nord de la Macédoine, de la Grèce, et puis il fait toutes les grandes villes, hein, il évangélise toutes les grandes villes. Mais géographiquement parlant, Paul arrive au bout du rouleau à Corinthe, parce qu'il a commencé en haut, c'était Philippe, et puis Bérée, et puis Thessalonique, et puis maintenant à Corinthe. Si on veut aller plus au sud, il faut partir à la nage, parce qu'on arrive. Et cette opposition-là, c'est comme la goutte qui fait déborder la vase. Et on voit parce qu'ils répondent avec cette geste formel, symbolique, où ils secouent la poussière de ses vêtements. Souvent, il a reproché des Juifs de ne pas vouloir l'évangile et de se tourner vers les païens. Mais ici, il va faire ce geste formel, montrant une frustration, mais aussi un jugement légitime contre ce rejet. Il va secouer la poussière de ses vêtements. Alors, ça, c'est un geste formel. Aujourd'hui, c'est la différence entre juste envoyer une lettre et puis envoyer une lettre avec en recommandation avec accusé de réception. C'est sa manière de dire votre opposition, c'est trop. Donc, ça, c'est la mission à Corinthe. Faire la liste des problèmes et des difficultés et des obstacles, comme vous avez vu, c'est assez facile. C'est très facile ici à Corinthe. Et j'imagine que pour vous aussi, si on voulait faire la liste des obstacles et des découragements, ce ne serait pas trop difficile. Je ne pense pas que vous ayez besoin de réfléchir beaucoup pour trouver un tas de raisons légitimes pour vous décourager aujourd'hui, pour ralentir, pour se taire, pour baisser les bras. On regarde la France et on se dit, en matière spirituelle, oui, le verre est bien plus que moitié vide. Le verre, il est vide. Et il y a de quoi d'être embêté dans notre évangélisation, il y a de quoi être abattu, découragé, dans un état de crainte, faiblesse et tremblement comme Paul. Mais maintenant, aussi une bonne chose à faire, c'est de regarder les encouragements. C'est un peu plus difficile, c'est facile de voir tout ce qui ne va pas, il faut un peu plus d'efforts pour voir tout ce qui va. Mais on peut le faire ici à Corinthe aussi. Si on regarde bien, on peut trouver quand même pas mal de bonnes choses. Tout d'abord, la présence des amis précieux. Arrivant à Corinthe, il va faire connaissance avec ce couple Aquilas et Priscille. Et ce couple, il faut dire, dans le Nouveau Testament, on fait un peu mieux connaissance avec eux, mais c'est un couple super. Et avec Paul, déjà, ils ont beaucoup en commun, ils ont le même métier. Puis eux aussi, ils ont été chassés, expulsés de Rome par l'empereur Claude, qui a chassé les Juifs. On a quelques éléments historiques qui montrent que cette expulsion des Juifs de Rome était aussi basée sur la tension qui pouvait exister entre les Juifs chrétiens et les autres Juifs, comme ici. Donc Claude a banni tout le monde. Mais voilà, certainement, eux aussi, ils ont déjà souffert pour leur foi, comme Paul. Donc voilà, c'est précieux, c'est encourageant de lier amitié avec des gens qui ont vécu la même chose que nous. Et puis ce couple... Voilà, on les voit ailleurs. Paul va pouvoir dire un jour aux Romains que eux, ce couple, Priscille et Aquilas, ils ont risqué leur vie pour moi. Donc c'était très, très encourageant d'avoir une telle amitié. On sait dans la suite des actes, eux, ce couple, grâce au temps qu'ils ont pu passer avec Paul, eux aussi vont avoir un ministère béni dans la suite. Ils vont rencontrer Apollos et tout ça, ça c'est la suite. Mais déjà, on voit que Dieu est en train de faire de bonnes choses. Ce lien, ces amitiés avec Priscille et Aquilas, c'est un grand encouragement pour Paul. Et vous aussi, regardez autour de vous, regardez là où vous êtes assis, regardez autour de vous, vous avez de quoi vous encourager. Si vous avez accepté de vous lier avec d'autres, notamment par une vie d'église, comme vous le faites, eh bien, vous aurez de grands encouragements. Vous avez droit à de grands encouragements dans la vie chrétienne. C'est une réalité qu'on ne veut pas oublier ou négliger, la présence des amis précieux dans la foi. Et puis, une autre chose encourageante, si on veut la voir, c'est l'arrivée de ces deux compagnons, Silas et Timothée. Verset 5. Et Silas et Timothée, en fait, ils apportent deux choses. Ils apportent tout d'abord de très bonnes nouvelles de Thessalonique. Parce que Paul les avait envoyés, il s'inquiétait de cette jeune église, il a dû fuir rapidement, il s'inquiétait de l'état de cette jeune église, il avait peur qu'elle serait vite étouffée. Mais Timothée arrive avec de très bonnes nouvelles en disant à Thessalonique, ils sont remplis de foi, ils continuent même sans toi et c'est bon. Et il va dire aux Thessaloniciens, ça c'est dans sa lettre téléphonaire, qu'est-ce que j'ai été soulagé, réjoui d'entendre parler de vous. Au milieu de mes afflictions présentes, j'ai trouvé une grande joie de savoir que vous portez bien à Thessalonique. Donc ça c'est fort, ça ne va pas fort à Corinthe, mais ça va très bien à Thessalonique. Et donc là c'est un encouragement, c'est souvent comme ça dans la vie chrétienne, ça ne va pas fort ici, mais ça va très bien ailleurs. Il faut juste opter de regarder ailleurs un peu pour voir que ça peut aller très bien. Et puis l'autre chose qu'ils ont apporté, très certainement, c'est un don, un soutien. On a ces éléments quand on lit plusieurs épîtres, notamment des églises en Macédoine, qu'ils étaient prêts à soutenir Paul. Donc certainement, ils ont apporté un soutien pour permettre à Paul de reprendre, on va dire, l'activité à plein temps. Et donc ça aussi, c'est un encouragement qu'on peut voir, retrouver ce soutien. Et puis, si on cherche à voir les encouragements aussi, on peut en nommer deux de plus. Ça s'appelle Justus et Crispus. Voilà, deux gens qui vont se convertir. Donc Paul, il va être chassé de la synagogue, il va être rencontré de l'opposition de la part des Juifs. Et verset 7 dit, et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dans la maison était contigu à la synagogue. Et donc ce Justus, il semble aussi se convertir et se rallier à Paul. Et c'est pas mal, sa maison est contiguë à la synagogue. Et sa maison, certainement, va faire partie de... les frères vont commencer à se réunir. L'église va se trouver dans cette maison, dans un premier temps. La plupart des commentaires pensent que ce Justus, c'est aussi le même Gaius dont on en parlait ailleurs. La Gaius qui reçoit l'église dans sa maison. Et voilà, la synagogue les a chassés et l'église va commencer dans la maison contigu à la synagogue. C'est ce que les chrétiens français appellent un clin d'œil du Seigneur. C'est déjà pas mal. Et puis, cependant, verset 8, encore un encouragement si on veut l'avoir, c'est Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur. Alors ça, c'est quand même pas la moindre des choses, que le chef de la synagogue, cette synagogue, ces juifs qui s'étaient opposés à lui, lui se convertit. Donc pour l'instant, il n'y a peut-être pas une foule qui se convertit, il n'y a pas un grand réveil, mais il y a quelques personnes clés, solides, des personnes bien choisies par Dieu, notamment Justus et Crispus, qui se convertissent, et là, ça c'est un encouragement. Et puis encore un encouragement, c'est ce cas de jurisprudence en faveur de Paul et de l'Évangile. On lit ça dans les versets, à partir du verset 12. Gallion, il est proconsul, et les Juifs le mènent, traînèrent Paul devant le tribunal, mais Gallion donne raison à Paul. Et sa décision va faire cas de jurisprudence pendant tout le temps que Paul est à Corinthe, c'est-à-dire une fois qu'il a rejeté le procès, les Juifs ne vont pas pouvoir représenter la chose. Et donc, pendant tout le temps que Paul est à Corinthe, il a une liberté, on ne peut pas lui faire du mal, parce que Gallion, qui est voilà, l'autorité romaine, a donné liberté à ses activités évangéliques. En plus, Gallion était connu comme quelqu'un de quand même sympathique, et son frère s'appelait Sénèque. Sénèque, c'était un grand philosophe et auteur et politicien romain qui était là à la cour romaine. Tout le monde connaît Sénèque. Et certainement, le lien de frère a fait que voilà, ce cas de jurisprudence a été connu ailleurs dans l'Empire romain. Et on pense que cette décision de Gallion a donné une légitimité, une liberté pour les chrétiens, pour des années à venir, en tout cas jusqu'à ce que l'empereur change et on recommence la persécution des chrétiens. Mais voilà, ça aussi c'est un encouragement qu'il y a une grande liberté d'action maintenant à Corinthe grâce à ce cas de jurisprudence. Alors vous voyez, si on peut voir tout ce qui ne va pas à Corinthe, cette ville à Corinthe, c'était assez facile de voir tout ce qui ne va pas, le côté païen, le côté rejet de la foi, mais on peut voir tout ce qui va bien ici à Corinthe, et déjà ici, ils auraient pu chanter ce cantique qu'on aime bien, hein, « Compte les bienfaits de Dieu et tu verras combien le nombre en est grand. » Même à Corinthe, le nombre en était grand. Et vous aussi, si vous faites l'effort, si vous ouvrez les yeux, vous verrez beaucoup d'encouragement, vous verrez beaucoup de preuves que Dieu agit autour de vous, et par vous, et grâce à vous. Donc nous avons fait la chose facile, c'est voir tout ce qui ne va pas. Nous avons fait la chose un peu moins facile, c'est voir tout ce qui va bien, les bénédictions de Dieu. Et maintenant, il va falloir faire quand même quelque chose de plus. Parce que il faut pas trop se fier non plus à ces circonstances. On pourrait faire la liste de tout ce qui va bien, tout ce qui va pas bien, et essayer de dire que quand la liste des choses qui vont bien est plus longue que la liste des choses qui vont mal, là, ça va. Mais on va toujours être instable si on base toute notre vie sur ces circonstances, c'est ce qu'on voit, des choses qui vont bien, des choses qui vont pas bien. Et c'est là qu'il faut apprendre à regarder complètement ailleurs, notamment vers la promesse du Seigneur, et vers cette vision pour la plus regarder complètement ailleurs et voir le Seigneur. Verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Ne crains point, car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux. Ne crains point, car je suis avec toi. » Car j'ai un peuple nombreux. Là, on peut regarder complètement ailleurs et regarder la promesse, la grande promesse de Dieu. Ne crains pas, car je suis avec toi. Et je suis avec toi, ça ne change pas quand tu vas bien et quand tu vas mal. C'est constant, je suis avec toi. Il a dit à Paul, ne crains pas, car je suis avec toi. Alors, n'importe qui lit cette phrase pourrait dire, ouais, ça c'est une belle pensée, ça c'est joli. Le Seigneur qui dit à Paul, ne crains pas que je suis avec toi. Mais pour Paul, il faut savoir que cette phrase, c'était bien plus. Parce que Paul, il est le grand expert de l'Ancien Testament. Il connaît sa Bible. Et il sait très bien que cette phrase, ne crains pas que je suis avec toi, c'est une phrase qui revient partout dans l'Ancien Testament. Dieu l'a dit à quasiment tous les hommes, tous les grandes personnalités de l'Ancien Testament. Dieu l'a dit. C'est un refrain partout. Ne crains point, car je suis avec toi. Et Paul, il n'est pas sans savoir que cette promesse résume tout le message de la Bible, tout le message de l'Ancien Testament. Tout le message de la Bible peut se résumer par cette promesse, ne crains point, je suis avec toi. Paul, certainement, lui-même a prêché sur ces choses en essayant de montrer aux gens que oui, tout l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. Toutes les bénédictions promises dans la Bible, dans l'Évangile, se résument effectivement par celui-ci, je suis avec toi. Mais tous ces hommes dans l'Ancien Testament qui ont reçu ces promesses, quelque part, Dieu est resté néanmoins lointain et grand. Il fallait qu'un jour, pour que cette promesse devienne vraiment compréhensible et tangible, cette promesse « ne crains point, je suis avec toi », bien un jour, ce qu'ont déjà annoncé les prophètes, Dieu allait vraiment venir pour être avec nous. Et ce que dit le prophète, vous connaissez bien, la Vierge deviendra enceinte, un enfant sera né, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Et ça c'est la bonne nouvelle de la Bible, que ce Dieu est prêt à être avec nous et qu'il a fait tout le nécessaire pour être avec nous. Donc finalement, quand le Seigneur donne cette promesse à Paul, ne crains point, car je suis avec toi, il est en train de lui dire des choses que Paul sait très bien, mais lui dire, voilà, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Paul l'évangéliste avait besoin d'entendre l'Évangile. Et Paul va lui-même dire, souvent dans ses épîtres, pour nous aider à comprendre l'offre de Dieu dans l'Évangile, regardez, une fois que Dieu est avec nous, c'est bon, personne ne sera contre nous, ou rien ne nous séparer de Dieu. Ce que Jésus avait dit suite à sa résurrection, je suis avec vous tous les jours. Ça, c'est la belle promesse de l'Évangile. Vous avez vu peut-être un enfant, peut-être c'est votre enfant, peut-être c'est vous-même, vous avez déjà vu l'enfant qui est dans une foule ou dans un magasin, il est avec ses parents, et puis à un moment, il lâche la main de ses parents, il les perd de vue, et pendant un temps, tout va bien, et puis il se retourne et il constate qu'il voit plus ses parents. Et là, c'est un moment de panique, pleurs et tout ça, parce qu'il est seul. Eh bien, cet enfant, c'est nous, c'est notre problème dans la vie. Quand ça va bien, on n'y pense pas trop. Mais quand nous rencontrons un problème, et quand ça ne va pas dans la vie, c'est là où notre conscience, à ce moment, provoque ce moment de panique et de crainte, en disant, là, je suis abandonné. Il n'y a plus vraiment personne qui me tient la main. J'ai relâché ou je suis seul. Et puis, on se tracasse avec toutes les raisons. Cela m'arrive parce que je suis coupable, ou bien cela m'arrive parce que Dieu ne m'aime pas, ou cela m'arrive parce que je n'étais pas un bon évangéliste, ou cela m'arrive parce que je ne suis pas un bon chrétien. Cette conscience provoque ce moment de crainte, de panique. Je suis tout seul, et quelque part, je mérite de l'être parce que je n'ai pas bien fait. Parce qu'au fond, la grande chose que l'homme aimerait entendre, c'est la voix de Dieu lui dire... Je suis avec toi, je te tiens par la main, je suis avec toi. Et c'est ça la Bible. La Bible dit que Dieu, il a fait le nécessaire pour être avec nous. Tout ce qui fait que nous, on relâche sa main ou que lui, il est obligé de relâcher notre main, eh bien, Dieu l'a réglé pour qu'il soit toujours et constamment avec nous. Et cette crainte d'être abandonné, cette crainte d'être relâché, cette crainte d'être tout seul à cause de quelque chose qu'on n'a pas bien fait, à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, eh bien, cette crainte-là, cet abandon-là, Jésus l'a pris sur lui-même à la croix. Il a porté nos péchés. Et à partir de ce moment-là, Dieu n'a plus aucune raison à nous bannir de sa présence. Dieu peut toujours être avec nous. Donc, ne crains point, je suis avec toi. On peut dire que c'est rebarbatif dans la Bible parce que Dieu ne sait que dire ça, ces gens, mais c'est pas ça, c'est que c'est au fond, c'est la beauté du message, c'est le message qu'il offre. Et Paul, l'évangéliste, il peut entendre, il a besoin encore d'entendre cette bonne nouvelle, je suis avec toi. Quand tu es un très bon évangéliste, je suis avec toi. Quand il n'y a pas foule qui se convertit, je suis avec toi. Quand la ville est Archipayen et te rejette, je suis avec toi. Quand la ville t'accueille à bras ouverts, je suis avec toi. Parce que finalement, c'est pas toi, c'est pas tes actions ou le succès de ton évangélisation qui fait que je suis avec toi. C'est ce que j'ai fait en Christ qui me permet d'être avec toi. Donc, c'est à nous aussi d'apprendre à regarder constamment ailleurs, pas juste ce qui va pas, et ce qui va et ce qui va pas, pour que notre vie dépende de ça, mais regarder à la promesse de l'évangile, Dieu est avec nous, sera toujours avec nous. Et puis enfin, je termine avec cette belle pensée aussi, faisant partie de aussi une promesse, ne crains point, car, premièrement, je suis avec toi, et puis parle, deuxièmement, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai un peuple nombreux. Ça, c'est optimiste. C'est tout le contraire de le verre est moitié vide. Le Seigneur avait dit un jour, Jésus avait dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais il précise ici que ce peu d'élus, eh bien, c'est quand même un peuple nombreux. C'est un peuple nombreux. Et quand il dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville, il ne parle pas des chrétiens dont Paul n'a pas encore fait connaissance, ou des chrétiens qui sont en cachette. Il parle des gens qui, pour l'instant, sont non-chrétiens, mais qui vont le devenir, parce que telle est la volonté de Dieu. Et ce qu'il dit dans ces versets, je pense que c'est exactement ce que Jésus a dit quand il parlait de lui, le berger et les brebis. Il a dit un jour, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène aussi. » Et c'est ce qu'a fait le travail du bon berger, d'amener ses brebis. Et ça, je trouve que c'est un des meilleurs encouragements pour l'évangélisation et pour persévérer dans le ministère. Et c'est la réflexion du Seigneur ici. « Parle, ne t'étais point, car j'ai un peuple nombreux. » Il ne dit pas « Parle, ne t'étais point, parce que peut-être, on ne sait jamais, peut-être les gens vont se convertir, même des Corinthiens. Alors, essayons tout de même. » C'est pas ce qu'il dit. Il dit « Parle, car j'ai un peuple nombreux. » C'est-à-dire, Dieu a un plan, il va l'accomplir, il va sauver les siens. Et pour Paul, c'était une vérité qu'il a soutenue tout au long de son ministère. Quand il y avait beaucoup qui se convertissaient, quand il y avait moins, il pouvait faire confiance à Dieu. Et son peuple, il va dire à ces deux jeunes, Tite et Timothée, il va les encourager avec les mêmes pensées. À Tite, il dit, moi je suis apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus. Et à Timothée, il dit, je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi, ils obtiennent la foi en Jésus-Christ. Le salut qui est en Jésus-Christ avec leur gloire éternelle. Donc, il saisit cette promesse, il regarde ailleurs le plan de Dieu qui va s'accomplir. La promesse de Dieu, je suis avec toi, j'ai un peuple nombreux. Tout ce que j'ai fait à la croix, eh bien, c'était une réussite. Et ça va réussir. Donc, au-delà des encouragements que l'on vit, au-delà des découragements que l'on vit, nous aussi, nous avons cette promesse, je suis avec toi, j'ai un peuple nombreux. Et le passage termine en verset 18. Je termine avec ça. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. C'est-à-dire le dernier endroit où il voulait être, et l'endroit qui semble le plus pénible et qu'il allait devoir encore fuir de nouveau comme toutes les autres villes, eh bien, c'est cet endroit où il est resté longtemps. C'est-à-dire cet endroit, le dernier endroit où il voulait, devient un des séjours le plus long qu'on trouve dans le livre des Actes, où il va pouvoir librement annoncer l'évangile. Donc nous aussi, peut-être vous êtes dans une situation où vous ne voulez pas y être, où vous pouvez facilement faire la liste de tout ce qui ne va pas, et bien parfois c'est dans cette situation-là que Dieu il est avec vous, et vous allez trouver que dans cette situation-là, il va faire beaucoup de bien, il va vous utiliser pour atteindre son peuple nombreux, pour les voir venir au soleil en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, nous allons terminer dans la prière. Seigneur, je te prie pour chacun ici, donne-nous cette espérance, optimisme de la foi qui vient de tes promesses, qui n'est pas basé sur ce que l'on voit autour de nous, mais qui est basé sur ce que nous savons de toi et ce que tu as fait pour nous à la croix et par la résurrection. Seigneur, nous n'avons pas à douter, tu vas accomplir ton plan. Nous pouvons vivre chaque situation avec toi, en s'appuyant sur toi. Agis encore, Seigneur, si notre pays autour de nous ressemble pas mal à Corinthe, avec tous les obstacles, les difficultés, les rejets de l'Évangile. Nous croyons que tu peux encore faire une œuvre et nous voulons être là, fidèles, nous voulons parler, ne pas se taire comme Paul. Donne-nous cette persévérance, cette patience, ce courage, cette confiance en toi. Merci de tout ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ. Amen.